ne l'a pas toujours été, si on écoute ce que nous raconte Pascal Blanchard, donc sur la mémoire et les traces du monde arabe, du monde arabo-musulman dans Paris. Alors on voit tout de suite qu'on commence dans une friche, alors que ça a été quelque chose d'important. Et ce qui est intéressant tout de suite avec la mémoire coloniale et notamment avec les traces des expositions coloniales, c'est de se dire à quel point des valeurs peuvent se retourner, s'inverser totalement. Aujourd'hui, la mémoire coloniale n'est pas la mémoire dont nous sommes le plus fiers. Et pourtant, il y a encore finalement, mettons 50, 60 ans, un peu plus, c'était la vertu française, c'était l'honneur de la France, c'était ce qui nous portait tous et ce qui nous caractérisait tous, c'était notre fierté. Et personne, mettons au tournant du XXe siècle, ne mettait en cause le bienfait de la colonisation. Nous avions une œuvre coloniale. Dans les expositions coloniales des années 30, très peu de voix se firent entendre pour condamner le colonialisme. Aujourd'hui, voilà, on a essayé dans les années 70 de retourner un peu le bilan et de dire non, ce n'était pas entièrement négatif. Aujourd'hui, les choses, est-ce qu'elles s'apaisent ou bien est-ce qu'on espère que, comme dans ce coin du jardin de Vincennes, les herbes, bonnes ou mauvaises, finiront par effacer cette mémoire.
Essayons d'imaginer un tout petit peu pour essayer d'arriver à se mettre dans le bain de l'époque. Le cinéma n'existait pas, ou très peu, il était balbutiant. Les Français n'avaient pas d'émissions de radio qui leur racontaient cet empire. Ils n'avaient pas ce contact au quotidien avec cet imaginaire oriental. Et d'un seul coup, ces chameliers qui arrivaient, ces fiers Touaregs qui faisaient peur, et cette reconstitution donnaient un sentiment de proximité à ce monde colonial, à ce Paris arabe qui jusqu'à maintenant avait plutôt été très élitiste, avait touché quelques individus dans la ville et qui d'un seul coup prenait un sens réel. C'est-à-dire qu'on donne un rôle à l'autre et on construit un Paris arabe dans Paris totalement imaginaire, mais qui semble réel puisque ces acteurs sont eux-mêmes issus de ces pays et viennent ici jouer le jeu que la République coloniale leur demande de jouer.
Alors Pascal Blanchard, vous dites que c'est au début du siècle dernier, 1907, avec cette date de l'exposition coloniale, que les Français et les Parisiens en particulier ont eu enfin une image de toute la France arabe en fait.
Exactement. Il y a un lien qui est très ancien. On peut dire que si on veut parler d'une manière très concrète et très politique de cette attirance vers l'Orient de la France, il faut remonter à Napoléon. Comme disent les Américains, non pas l'expédition d'Égypte, mais la conquête d'Égypte. C'est toujours très amusant quand on discute avec des Américains. Ils ne parlent pas d'expédition, mais toujours de conquête. On peut dire que cet attrait pour l'Orient commence avec Napoléon. Il va bien sûr être poursuivi avec la conquête de l'Algérie en 1830. Et à partir de ce moment-là, l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, rentre dans le quotidien de la France, même si ce quotidien n'est pas encore dans Paris un quotidien très visible. Essentiellement, jusqu'aux années 1880, ce sont les élites qu'on rencontre dans Paris. Les élites, bien sûr, intellectuelles. Ce que souvent beaucoup ont oublié, c'est que la première presse libre arabe est écrite à Paris. Paris est à la fois une capitale coloniale, donc, soyons simples, une capitale plutôt d'oppression, et à côté aussi une capitale de liberté. C'est-à-dire que ces orientaux qui veulent écrire, comme on les appelle à l'époque, ils viennent à Paris pour écrire, pour avoir le droit de publier et d'éditer, défendre ces idées de modernisation de ce que peut être à la fois l'Empire ottoman ou au Maghreb, c'est à Paris qu'on vient. Donc dans ce Paris arabe qui commence à prendre forme. Et au moment des grandes expositions, que ce soit 1878, 1889, puis 1900, les Français vont petit à petit rentrer dans de plus en plus une réalité fictionnée avec ces danses du ventre, par exemple, ces bistrots arabes.
Dans la ville d'Alger, on voyait circuler un tout petit cireur, joli comme un cœur. Il cirait par-ci, il cirait par-là, quel petit amour qu'il y avait là. Toujours soigné, toujours bien lavé, une fleur dans ses cheveux frisés. Il n'arrêtait pas, Ali Ben Baba, Khana, Nana. La banana, khanana, khanana, Ali Ben Baba, et Trafaja, la moutière, Trafaja, oh non. Tirez, monsieur, tirez, elle est plus riche, khanana, yamana, c'est bouddha, tirez, monsieur. Il sira tant et tant, il eut tant de clients, qu'il s'en vint à Paris, loin de son courbis, le petit cireur, puis de suite fureur, et devint patron de 500 garçons. Toujours soigné, toujours bien lavé, une fleur dans ses cheveux frisés, il s'organisa, Ali Ben Baba, son magasin près d'une extension, il devint une espèce de champion, qui se fatiguait pas. Ali Ben Baba, après un tel succès, l'amour suivit de près, les femmes lui firent la cour, la nuit et le jour, il devint le chéri des Fatmas de Paris, comme il aimait ça, il en profita, toujours. toujours soignée, toujours bien lavée. Une fleur dans ses cheveux frais.